Donc, Ésaïe chapitre 43, et en fait, on va lire jusqu'au verset 5 du chapitre 44, parce que ça fait un tout. Et en lisant et en relisant ce chapitre cette semaine, je me suis rendu compte qu'il n'est absolument pas facile de faire une sorte d'exposé linéaire, où on commence au verset 1 et on va jusqu'à la fin du chapitre, parce qu'en fait, Ésaïe évoque beaucoup de choses, il tourne autour de plusieurs thèmes, il revient tout le temps au même thème en quelque sorte. Pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament, c'est un petit peu le processus de Jean, dans la première lettre de Jean, où ça tourne autour des mêmes textes, il revient tout le temps. Alors, ce que je vais faire, je vais le lire dans sa totalité, parce que je ne vais pas forcément faire un commentaire sur tous les versets. Donc, ça veut dire que je vais demander d'écouter avec beaucoup d'attention, et de au moins d'assimiler, qu'on peut dire, l'ambiance de ce chapitre. Et après, on va revenir sur un certain nombre de termes que l'on va examiner. Donc d'abord, je vais lire le chapitre 43 et le chapitre 44 jusqu'au verset 5. Donc c'est une lecture assez longue. Vous pouvez suivre dans votre Bible ou simplement écouter comme vous voulez, comme vous préférez. Cela dit, avant de commencer, c'est quand même un chapitre extraordinaire qui m'a beaucoup béni cette semaine. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses? Lesquels nous ont annoncé les premiers événements? Qui présentent en témoin? Qui se défendent? Qu'on puisse écouter et dire, c'est vrai. Mais c'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez que je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé. Après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi, moi seul, qui suis l'Éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui a fait des révélations, qui a sauvé, qui a annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début. Personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Je vais couler tous les fuyards, même les Babyloniens sur leurs bateaux dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers, ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je n'étais pas fatigué pour recevoir de l'encens. Tu ne m'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille mes souvenirs. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te défendre. Ton premier ancêtre déjà a péché. Et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Voilà pourquoi j'ai déshonoré les responsables du sanctuaire. J'ai voué Jacob à la destruction, Israël aux insultes. Mais écoute maintenant, Jacob, mon serviteur. Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait, qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère. Celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur. Jeshurun, toi que j'ai choisi. Bon. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe, comme les saules près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main, propriété de l'Éternel, et prendra avec fierté le nom d'Israël. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce chapitre. Je voulais juste commencer en disant ceci. Qu'il est évident, quelque part, que cette prophétie s'applique d'abord à Israël et dans un deuxième temps au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, de l'Église. C'est souvent le cas on en a parlé plus d'une fois dans les prophéties, qu'il y a plusieurs horizons. Et en fait, je vais d'abord passer en revue assez rapidement le fait que ça s'applique à Israël, et puis refaire la même chose en ce qui concerne l'Église, nous. Parce que Dieu ne change pas. Il veille sur l'accomplissement de son projet pour l'humanité, qui passe depuis le début de l'humanité, qui passe par Noé, qui passe par Abraham, qui passe par Jacob, deux ou trois fois d'ailleurs dans ce texte, il a parlé de Jacob, l'ancêtre du peuple d'Israël, qui passe par tous les événements du peuple d'Israël, qui passe même par les exils, le royaume du Nord en Assyrie, le royaume du Sud à Babylone, qui passe par le retour dans le pays, comme on va voir dans Esdras, donc le mercredi soir à l'étude biblique, où il arrive au Messie, Jésus, qu'on a honoré par nos chants tout à l'heure, qui passe par l'annonce de l'Évangile, par les apôtres, qui passe par l'annonce de l'Évangile dans tous les pays du monde, petit à petit. On a parlé de l'Angleterre au XVIIIe siècle, où John Wesley a pu parler surtout aux ouvriers dans les mines et les usines qui commençaient à se mettre en place avec la révolution industrielle, qui passe aujourd'hui par Internet, qui passe par la prédication, ce qui fait que dans le monde entier, dans tous les pays du monde, il y a des chrétiens, même si dans certains pays, ils sont persécutés ou pratiquement clandestins. Mais c'est le même projet de Dieu qui s'accomplit parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Alors, plutôt que de Non, je vais encore dire deux ou trois choses avant de mettre la diapo suivante. Au verset 10, Dieu dit que Israël est son serviteur. Et je l'ai dit, je crois qu'il y a deux ou trois semaines, qu'il y a le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant qui est le Messie, mais parfois le peuple de Dieu est aussi appelé serviteur. Donc ici, c'est Israël qui a choisi que par Israël, il se révèle à l'humanité. Et c'est ce qu'on voit au verset 10 à 12, parce que Israël devait être les témoins de l'Éternel. Je relis. « Vous êtes mes témoins, déclare l'Éternel, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé. Après moi, jamais aucun autre n'existera. » Au verset 12, « C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. » Donc Israël est appelé à être témoin. Et une façon dont cela se passe, c'est que, comme on a déjà vu dans ce texte, c'est que au moment où Ésaïe parle, le peuple, le royaume du sud autour de Jérusalem existe encore. Mais ils vont être déportés à Babylone. Et Ésaïe voit déjà que 70 ans plus tard, ils vont revenir. C'est ce dont il est question là au verset 14. J'envoie l'ennemi contre Babylone. Je vais couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur le bateau dont ils sont fiers. Il y avait beaucoup de commerce sur les fleuves de la Mésopotamie. Le petit bateau, on a chanté tout à l'heure sous les esquifs et les nacelles. Des mots qui ne nous disons pas tous les jours, mais voilà. Les Babyloniens vont fuir parce que finalement, c'est l'Éternel qui fait. Et là, on va en parler au verset 19. Je vais faire une chose nouvelle. La délivrance de l'exil à Babylone est décrite dans les mêmes termes que la sortie de l'Égypte, donc c'est une chose nouvelle. Il va faire quelque chose. Jusque-là, Israël aurait pu dire « L'Éternel qui nous a sortis du pays d'Égypte ». Maintenant, ils vont pouvoir dire « L'Éternel qui nous a fait sortir de Babylone ». Donc c'est une chose nouvelle. Et c'est ça qui leur permet d'être des témoins pour dire « Dieu est fidèle ». On s'est repenti, on est revenu dans notre pays. Regardez, qui peut dire cela? Il y a un seul Dieu, c'est lui qui le fait. Donc voilà le contexte. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est revenir sur un certain nombre de mots qui reviennent tout le temps dans ce texte. Et on va regarder ça, d'abord en ce qui concerne Israël. Donc, j'ai tout mis sur une seule diapo, comme ça je n'ai pas besoin de changer au milieu de tout cela. D'abord, celui qui t'a fait, celui qui t'a créé, Dieu est à l'origine de ce peuple. Il dit au verset 1, « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. » Il revient au verset 7, il dit « Tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. » Trois verbes. J'ai ajouté, parce que dans la lecture, il y en a un que j'avais manqué, le verset 15. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Le verset 21. « Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » Et puis 44, verset 2. Celui qui t'a fait, qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien, Jacob, mon serviteur, Jeshurun, et Jeshurun, c'est enfin un nom poétique qu'on donnait parfois à Israël. Donc, c'est Dieu qui avait créé ce peuple, qui avait formé ce peuple. Et dit même qu'un peuple qu'il a choisi. Le verset, je n'ai pas mis dans le bon ordre, le verset 10, C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez. Au verset 20, à la fin du verset 20, il parle de mon peuple, celui que j'ai choisi. Et puis dans 44, verset 1, écoute maintenant Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. Oui, ce n'était pas évident de faire une étude linéaire parce que les mêmes mots revenaient tout le temps. Ensuite, je t'ai racheté. On peut aussi utiliser le mot délivré. Le racheté, c'était le mot qui était aussi utilisé pour l'esclave qui avait reçu sa libération. Donc, verset 1 du chapitre 43. N'aie pas peur car je t'ai racheté. Les versets 3 et 4. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Et un petit peu plus loin, je donne des hommes à ta place, des peuples, en échange de ta vie. Bon, il faut que j'explique ça, c'est un petit peu plus compliqué. Pour racheter, il fallait donner un prix. Donc, un esclave qui était racheté, il fallait quand même acheter sa libération. Bon, c'est possible, hein. C'est pas l'esclavage comme dans les Antilles ou dans le sud de l'Amérique, hein, donc plus tard. On sait que Jésus nous a rachetés en payant par son sang. Ici, de façon, on va dire, poétique, c'est Égypte et Éthiopie et Saba qui sont le prix. Pourquoi? Parce que les Perses, qui ont envahi Babylone, ont aussi conquis toute cette région-là. Donc l'Égypte et l'Éthiopie a perdu leur liberté pour que Israël puisse récupérer la leur, en quelque sorte. Voilà. C'est un peu complexe, mais enfin, il y a un prix à payer, en quelque sorte, pour la rédemption. Ce qui fait que, puisqu'ils ont été libérés, il y a tous ces verbes-là, « tu m'appartiens ». Je t'ai appelé par ton nom, je t'aime, n'aie pas peur. Verset 1. Maintenant voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, n'aie pas peur car je t'ai racheté. Le verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Le chapitre 44, verset 3. Il versera sa bénédiction. Il versera sa bénédiction sur ses rejetons. Et le verset 5, où il dit que il y a des personnes, d'ailleurs, des non-juifs, qui veulent prendre le nom de Jacob, qui sont fiers de porter le nom d'Israël, et qui disent « J'appartiens à l'Éternel, propriété de l'Éternel. » Il est le seul sauveur qui efface tes péchés. 43, verset 11. C'est moi seul qui suis l'Éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Il n'y a personne qui peut délivrer Israël de cet exil, de cette déportation. Verset 12. C'est moi qui a fait des révélations, qui ai sauvé et qui a annoncé même des événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Et puis, dans tout le texte 22 à 28, il revient sur le péché de son peuple. C'est un peu comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils disent, qu'Israël dit, on est fatigué d'offrir des sacrifices, fatigué, on ne veut pas acheter les plantes aromatiques pour les offrir à l'Éternel. Ils n'ont pas... fait les sacrifices pour leurs péchés. Au contraire, c'est « Tu m'as importuné par tes péchés, dit l'Éternel. Tu m'as fatigué par tes fautes. » Et pourtant, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. » Donc Dieu pardonne même ses péchés. Donc, vous êtes mes témoins. On en a parlé tout à l'heure. Au moment où le peuple est parti, verset 8, c'est un peu comme il dit, un peuple aveugle qui avait des yeux, des sourds qui avaient des oreilles, mais en revenant de Babylone, ils peuvent être les témoins de la grâce de Dieu. Et c'est comme si Dieu convoque les nations pour dire, voilà, qui a pu avancer les choses à l'avance, qui a pu intervenir donc pour libérer un peuple. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a pas. Je suis le seul Dieu qui existe. Avant moi, il n'y avait pas de Dieu. Après moi, il n'y aura pas un autre. Moi, je suis le seul éternel. Et on va revenir à ça beaucoup dans les deux, trois chapitres qui suivent. Donc, Israël devait être le témoin de ce seul Dieu, ne serait-ce qu'en vivant cette libération. Et la promesse de Dieu est là, verset 2. Je suis avec toi. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Voilà, même la première partie du culte, ça arrive très souvent, parler de traverser l'eau, et voilà, on revient sur cela. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et le verset 5 également, n'aie pas peur que je suis moi-même avec toi. Donc, à plusieurs reprises, je l'ai marqué, n'aie pas peur un peu plus haut, mais à plusieurs reprises, n'aie pas peur, viens avec, je suis avec toi. Et ensuite, parce que le peuple a été délivré, on l'appelle à proclamer ses louanges. Le verset 21. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Et cela, d'ailleurs, est cité dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Et également, le Seigneur va déverser son esprit sur le peuple, et à partir de ce moment-là, non seulement ils peuvent dire « j'appartiens à l'Éternel », mais même l'autre voudra porter le nom de Jacob, comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir les goyim, donc les nations, qui vont aussi se tourner vers Dieu et porter son nom et dire « propriété de l'Éternel ». Donc voilà, j'ai passé en revue cela très rapidement dans le contexte de ce retour de Babylone. C'est incroyable que nous l'avons déjà vu, que Esaïe a pu voir non seulement qu'ils allaient partir à Babylone, mais que ce roi Cyrus qu'il nomme va être celui, le Perse, qui va forcer les Babyloniens à se rendre. Et ce nouveau roi Cyrus, qui avait une autre politique, c'était de renvoyer les peuples chez eux. Et comme on dit toujours un peu de façon sarcastique, les Romains c'était comme ça, du moment qu'ils payaient les impôts et les taxes, voilà, c'était bon, ils avaient une certaine liberté. Mais... Donc voilà comment ça s'applique à Israël. Mais si vous connaissez ne serait-ce qu'un tout petit peu le Nouveau Testament, tout ça, on va retrouver toutes ces pensées dans le Nouveau Testament pour les chrétiens, d'autant plus. Alors, j'ai dit, mais comment je vais faire? En fait, finalement, je me suis dit, je ne vais pas citer plein de versets du Nouveau Testament. J'aurais pu, mais bon, on aurait mis longtemps pour le faire, pour prouver tout cela. Mais je me suis dit, quand même, on va revenir sur ces mêmes points pour dire, voilà notre socle solide en tant que chrétien. Et je pense que quand on discute avec ceux qui sont autour de nous, ils essaient de se débrouiller dans la vie, ils n'ont pas ce socle solide de savoir comment ils vont conduire leur vie. Alors, je me suis dit, si tout cela en retient pour nous, là on peut traverser la vie dans la confiance, dans la paix, parce qu'on sait qui soutient notre vie et où nous allons et comment nous allons vivre pendant ce temps-là. Donc je vais juste revenir rapidement sur ces versets. Celui qui t'a fait, celui qui t'a créé. Bon, il y a deux niveaux. D'abord, il y a la création de l'être humain. Créé en image de Dieu, ce qui fait qu'on sait nous pourquoi nous avons de la valeur en tant qu'être humain. Alors que les gens autour de nous se posent des questions. J'étais avec quelqu'un hier qui disait « Je suis... » Quel est le mot qu'il a dit? Un peu « Je suis désolé, et c'est plus fort que ça, quand je vois les problèmes du monde, mais je suis encore plus désolé quand je sais que j'ai pas de raison d'être désolé. » Parce que, pourquoi, si on n'est pas chrétien? Et on a aucune raison de dire qu'on a la valeur devant Dieu. Et je crois que j'ai cité une fois un Parlement européen qui aurait voté que les grands singes doivent être assimilés à la Déclaration des droits de l'homme. Parce que finalement, si on n'est pas chrétien, pourquoi nous, êtres humains, on aurait des droits et personne d'autre? Alors, on sait qu'on est créé à l'image de Dieu. Mais l'Église, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, nous sommes la nouvelle humanité, créée maintenant, où Dieu refait son image en nous. Nous sommes le peuple qu'il a choisi. C'est toujours compliqué parce qu'on ne va pas tout comprendre. Mais je pense que le Seigneur choisit son peuple. Bon, parfois, il y a beaucoup de discussions autour de cela, mais dans ce sens, tous les chrétiens peuvent dire sans difficulté, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres que j'ai fait un meilleur choix. C'est pas parce que je suis plus intelligent, plus rusé, etc., que je me suis converti. Ça s'est imposé à nous, on n'avait pas à la limite le choix à un certain moment dans notre vie, et on s'est tourné vers le Seigneur. Donc, il nous a choisis. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de confiance. Parce que celui qui nous a choisis, il va nous garder jusqu'au bout. Je t'ai racheté. Bon, là, Jésus est le rédempteur. Hein, donc, les mots racheté, rédempteur et rançon, c'est la même chose en fait. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions sortir de l'esclavage du péché. Être racheté, c'est la même chose, avec un autre vocabulaire, que d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, de naître de nouveau pour commencer une nouvelle vie, etc. Mais racheté, on n'est plus esclave. Et on peut dire, Dieu peut nous dire, tu m'appartiens. Et j'aime beaucoup cette pensée, je t'ai appelé par ton nom. J'ai failli choisir un chant qui le dit, mais j'ai choisi un autre finalement. À un certain moment, David m'a appelé David. Dieu m'a appelé David. Viens, viens vers moi, il me connaît. D'ailleurs, dans Job, il dit qu'il connaît le nom de toutes les étoiles dans toutes les galaxies. Donc, d'autant plus, il connaît notre nom. Et il dit, je t'aime et n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne crains pas. C'est, on m'a dit une fois, le commandement qui revient le plus souvent dans toute la Bible. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est le seul sauveur qui efface tes péchés. Bon, ça on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas un autre moyen d'être pardonné que par la mort de Jésus. Si Dieu avait voulu passer l'éponge, comme on dit, il n'aurait pu être juste. Comme un juge humain qui ne peut pas dire à quelqu'un, « Ouais, vous avez fait des fautes, mais c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui, donc allez, vous êtes libéré. » Donc, c'est un scandale. Mais on est libéré parce que le prix a été payé à notre place par Jésus. Donc, vous êtes mes témoins. Comme Jésus a dit, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, nous sommes ses témoins. Et il dit, « Je suis avec toi. » Elle est faite de toutes les nations, mes disciples. En les baptisant, en enseignant tout ce que je vous ai enseigné. Et je serai avec vous. Toujours. Avec toi. Et donc, quelle est notre raison d'être? Le peuple proclamera mes louanges. Nous avons été créés pour faire l'éloge de Dieu. Je n'ai pas mis le verset là, mais c'est un verset que j'aime énormément dans 2 Corinthiens, qui dit ceci, en parlant du salut, 2 Corinthiens 4, 15, « Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. » Donc, si on est témoin, si on évangélise, ce n'est pas seulement pour que les gens soient sauvés, mais pour que les personnes sauvées ajoutent leur voix à la chorale universelle des chrétiens pour proclamer les louanges de Dieu. Et certains ont entendu parler d'un auteur américain qui s'appelle John Piper. Et donc, dans une des phrases clés qu'il répète très souvent, c'est « La mission existe parce que la louange n'existe pas. » Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'on évangélise pour qu'il y ait davantage de personnes qui vont louer Dieu sur la terre et pendant l'éternité. Donc, pour que la louange existe. Ça, c'est la raison d'être, et c'est pour cela que finalement, on arrive à ça. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Alors, quand on a tout ça, waouh, c'est vraiment un fondement solide de notre vie. Sauvé par la grâce, le Seigneur avec nous, n'aie pas peur, il efface nos péchés, il nous a choisis, il nous a créés, nous pouvons parler de lui. J'étais très interpellé par ce mouvement de Extinction Rebellion, donc qui essaie d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les problèmes de climat, sauver la planète comme ils disent. Mais nous aussi, on peut dire le juge est à la porte. Donc nous aussi, nous devons dire attention. Il y a une fin de monde si vous ne vous repentez pas. Donc nous sommes ces témoins pour cela. Mais cela dit, on va le faire dans la joie parce qu'on va proclamer ses louanges. En tout cas, ce chapitre m'a beaucoup parlé cette semaine. Si vous pouvez retenir tout cela, c'est vraiment un fondement solide pour notre vie. Et comme j'ai dit, quand je vois les gens autour de nous qui n'ont pas ça, je dis voilà, on a vraiment de quoi nous réjouir en Dieu.